Bonsoir, je vous souhaite à tous une très bonne année également. Et donc cette année, on va commencer par un auteur qui m'a littéralement envoûtée quand j'ai commencé à lire. D'abord, quand j'étais plus jeune, la fameuse invasion de la Sicile par les ours. Moi, c'est comme ça que j'ai connu Buzzati. Et puis, ses contes, ses nouvelles. Et comme j'ai décidé de vous lire trois de ces nouvelles, j'ai pensé qu'il serait bien de préciser un petit peu qui était le personnage. C'est un personnage, Tino Buzzati. Donc Tino Buzzati est né à San Pellegrino di Belluno, au nord de la Vénétie, le 16 octobre 1906. Ce que vous voyez là, ce sont les Dolomites, que seront ces chères montagnes. Son père est professeur de droit international à Milan. Sa mère est vétérinaire. Il est issu d'une bourgeoisie aisée. Il est le second de quatre garçons. En 1924, il entame des études de droit à l'université de Milan. Puis, il est embauché au quotidien milanais Il Corriere della Sera. Et ce sera toute sa vie. Il débute comme correcteur, puis devient reporter, correspondant de guerre pendant longtemps, chroniqueur, essayiste, éditeur, et terminera même comme critique d'art. En fait, il y travaille tout le temps, toute la semaine, tous les jours, et le soir, quand il rentre, il écrit. Son activité de journaliste influence ses écrits. Par ses histoires fantastiques sont rédigées dans un style très réaliste. Lui-même disait « Il me semble que le fantastique doit être aussi proche que possible du journalisme. Il ne s'agit pas de banaliser les choses. Disons plutôt que l'efficacité d'une histoire fantastique est liée à l'emploi de mots et de paroles les plus simples, les plus concrets possibles. » Vers 1933, il commence à écrire Barnabo des montagnes, son premier roman, puis Le secret du Bosco Vecchio, tout ça dans un univers de montagnes, c'est Dolomites. Roman assez peu remarqué, mais qui quand même sont encore édités et qu'on peut encore retrouver. Durant la guerre de 40, il est affecté comme journaliste, correspondant de la marine royale italienne. Il va en Éthiopie, en Palestine, en Afrique du Nord, en Sicile. À cette période, son roman, écrit en 1939, « Le désert des Tartares », tout le monde a entendu parler du désert des Tartares, « Il deserto dei Tartari », est encensé par la critique et il accède à la célébrité. Traduit plus tard en plus de 20 langues, il fait l'objet d'une pièce de théâtre et d'un film en 1976. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent de ce film avec Jacques Perrin, Vittorio Gassman. Mais les critiques n'ont pas été excellentes parce que c'est très difficile. Il était très difficile de reproduire, de transmettre tout ce que Buzzati avait voulu y mettre. C'est le cadre d'une garnison dans un vieux fort qu'on appelle la Fortezza Bastiani, isolé à la frontière, où le lieutenant Drogo attend l'attaque des Tartares. Attaque mythique. Attente de la gloire, attente vaine, car après plusieurs années, Drogo tombe malade et doit être évacué. C'est le thème de la fuite du temps, de l'attente, de l'échec, de la vacuité de la vie, thèmes qui reviendront sans cesse dans l'œuvre de Buzzati. Buzzati dit s'être inspiré de l'escalier étroit et tortueux qui grimpait jusqu'au dernier étage à son bureau du Corriere della Sera. En 1942, il publie un recueil de nouvelles, I sette messaggeri, les sept messagers. Suivront nombreux recueils de nouvelles, contes, récits fantastiques, surréalistes, oniriques et allégoriques, vous le verrez tout à l'heure. Mais il faut replacer Buzzati dans son temps, dans son époque. Il subit l'influence de Kafka. Il exprime l'impuissance humaine face au labyrinthe d'un monde incompréhensible. Il se heurte à un présent perpétuel et interminable. C'est le courant existentialiste des années 40-50. Sartre écrit La nausée en 1938. Camus, L'étranger en 1942. Vous étiez à tous les talents. Les Italiens disent un genio. Il s'essaie à différentes formes d'art, comme la peinture. On verra tout à l'heure. Il présentera plusieurs expositions. La gravure également, je vais y revenir, ou la création de décors de théâtre. Là, on le voit à côté de son tableau qui représente le Duomo de Milan. Il a fait toutes sortes de styles de peinture, mais voilà, j'aime beaucoup celle-là. Pour lui, la littérature et la peinture ont un même but, raconter une histoire. Il reçoit le prix Strega, notre Goncourt, pour son recueil de nouvelles, 60 racconti, 60 nouvelles. Il écrit un roman pour la jeunesse, la fameuse invasion de la Sicile par les ours, qui est une fable fantastique et épique, ponctuée de poésie et illustrée par lui-même. Si vous voulez le feuilleter, tout à l'heure, vous verrez qu'il est illustré. C'est lui. Puis il écrit une nouvelle, parmi tant d'autres, qui s'appelle Le cas. Mais Le cas de Buzzati, c'est très célèbre, même si quelquefois on ne sait pas trop ce dont il s'agit. Le cas donne son nom à un recueil de nouvelles, diverses et nombreuses. À la lecture de ces récits, on est sans cesse emporté, c'est ce qui m'est arrivé. Il nous tient en haleine. Le thème principal, c'est presque toujours l'interrogation sur l'humain dans la modernité et son attitude face à la vie et face à sa fin inexorable. Ses contes, ses paraboles, inscrivent Buzzati dans la merveilleuse tradition des fabulistes. La Fontaine, parfois, et pourquoi pas remonter jusqu'à Ésope. Son imagination est luxuriante. Sa façon de raconter lui est propre. Ce sont des écrits linéaires, souvent désenchantés, souvent pathétiques. Vous en aurez aussi un échantillon. Ses histoires sont simples, dépouillées. On dira qu'il a l'humour discret, c'est vrai, mais quand même. Lui-même se montre plutôt timide et réservé. Il écrit 3 recueils de poésie aussi, et pas moins de 20 pièces de théâtre, entre 1942 et 1968. Une de ses pièces, un cas intéressant, un caso clinico, le sien sans doute, est traduite par Max Gallo, qui traduira encore d'autres de ses œuvres, et mise en scène par Camus en 1956. En 1970 sort Poema a fumetti. Ça signifie poème bulle. C'est une sorte de bande dessinée, au dessin très varié, fantastique, surréaliste, comme toujours, et réédité sous le titre « Orphée aux enfers » dont il s'est inspiré. Il obtiendra un prix pour cette œuvre aussi. Un dernier roman, ou presque dernier, paraîtra en 1963. C'est l'histoire d'une passion dévorante d'un quinquagénaire pour une jeune prostituée. Il s'appelle « Un amore ». Un amour, thème totalement nouveau dans son œuvre. Son roman est assez mal accueilli par la critique et par ses lecteurs, peu habitués à des allusions autobiographiques, parce qu'il s'agissait de cela. Buzzati a vécu, lui, en compagnie de sa mère, jusqu'à la mort de celle-ci, à 90 ans. Et il ne se décidera à se marier qu'à 60 ans. Il disparaît en 1972, à 66 ans, victime d'un cancer. Son œuvre littéraire est très abondante. Ses écrits de journaliste, ses contes, ses nouvelles se nourrissent les uns des autres, lui-même obsédé par la fuite du temps et l'absurdité de l'existence. Un chroniqueur très célèbre du Corriere, Indro Montanelli, c'est un nom qui dira quelque chose à un grand nombre d'entre vous, fut son collègue et ami. Indro Montanelli était né en 1909, Buzzati en 1906. Certains ont sans doute lu plusieurs fois dans le Corriere la stanza di Montanelli, où Montanelli s'adressait à ses lecteurs et il est resté très très célèbre. La dernière œuvre de Buzzati est Le régiment part à l'aube. Il a parlé, vous avez remarqué, beaucoup de soldats, beaucoup de vues militaires, mais c'est aussi ce qu'il a vécu, lui. Et cette œuvre, Le régiment part à l'aube, est préfacée justement par Indro Montanelli lui-même. Et celui-ci rapporte à propos de Buzzati les paroles suivantes. Je vais vous les lire d'abord en italien, puis après je vous les traduirai. Ramento l'ultima nostra passeggiata a Cortina. Era già malatissimo, ma non voleva dirlo. Preferiva far finta di credere a ciò che dicevano i medici, i quali parlavano come certi personaggi dei suoi racconti, per sfumate allusioni che, volendo infondere fiducia in ciò che dicevano, i medici, mettevano i brividi nelle ossa perciò che tacevano. Me revient en mémoire notre dernière promenade à Cortina. Il était déjà très malade, mais ne voulait pas en parler. Il préférait faire semblant de croire à ce que disaient les médecins qui s'exprimaient comme certains personnages de ces nouvelles en propos évasifs sous prétexte de garder confiance et vous glaçait les os par tout ce qu'il taisait. J'ajouterai que Buzzati était aussi musicien. À 12 ans, il jouait déjà de deux instruments, dont le violon. Il écrivit plus tard des libretti d'opéra. Dans un autre domaine, tout à fait différent, celui du sport, il se distinguait aussi. Il était alpiniste, amoureux de ses chères Dolomites, véritable toile de fond de la ville de Belluno. Et il y a dans les Dolomites une via ferrata, vous savez ce que c'est que les via ferrata, des échelles de fer qui sont fixées dans les rochers de façon à pouvoir grimper plus facilement. Eh bien, il y a une via ferrata qui porte son nom et qui s'appelle Via Ferrata di Buzzati. Beaucoup d'écrivains sont inspirés de ses écrits, surtout le désert des Tartares. Certains connaissent sans doute l'écrivain sud-africain Coetzee, prix Nobel de littérature en 2003 pour Disgrâce. Eh bien, celui-ci écrivit un roman, Waiting for the Barbarians, En attendant les barbares, qui rappelle beaucoup le thème du désert des Tartares. Même un rappeur se fit baptiser Fuzzati en hommage à Buzzati, disparu pourtant il y a plus de 40 ans. Mais l'œuvre et la vie de Buzzati sont si denses et si riches qu'il vous restera encore à découvrir. Je vais ajouter quelques lignes que j'ai trouvées là et que je trouve qui représentent bien l'œuvre de Buzzati, qui en parle bien. D'un genre à l'autre, De la longue distance à la forme brève, l'œuvre de Buzzati est un perpétuel sortilège, un merveilleux exercice de prestidigitation littéraire. Si l'on entre dans cette œuvre-là, qui ressemble à un château hanté, faut savoir qu'on a rendez-vous avec le vertige. L'enchanteur transalpin n'a pas son pareil pour dérouter, brouiller les cartes de la vraisemblance, ébranler la certitude, faire vaciller les fondements de la réalité. Quant à ses héros favoris, ce sont des familiers des ombres qui ne cessent de traverser les miroirs en ouvrant toutes grandes les portes du surnaturel et du fantastique, de l'insolite et du mystère. Voilà, si je vous ai éclairé un peu plus sur Buzzati, je vais pouvoir vous raconter trois de ses contes. Le premier, je vais vous le dire en français. Et puis le second. Hein, le second, je vous en dirai un petit morceau en italien pour faire plaisir à certains. Et puis après, je reprendrai en français. Le premier, c'est sans doute le plus émouvant. Ça va là ? Ça marche plus ?
Ça y est, ça marche.
Ça y est, c'est bon ? Ça va là ?
Oui.
Ça va ou ça va pas là ? Ça va ? C'est bon. Tu peux y aller. Bon. Le premier s'appelle, a été écrit d'abord en 1966. Il s'appelle Il Mantello, le manteau. Il fait partie du recueil Les Sept Messagers. Il s'agit d'un soldat. Après une longue attente, alors que l'espérance s'amenuisait, Giovanni s'en revint chez lui. Sa maman achevait de débarrasser la table. Il n'était pas tout à fait 2 heures et les corneilles volaient dans le ciel gris de mars. Il apparut soudain sur le seuil et sa mère s'écria « Dieu soit loué !» en courant l'embrasser. À leur tour, Anna et Pietro, sa petite sœur et son tout petit frère, se mirent à crier de joie. Et voici que le moment attendu depuis des mois et des mois, ce moment tant évoqué dans les doux rêves de l'aube, allait ramener ici le bonheur. Il ne dit presque rien, tant il avait de mal à retenir ses pleurs. Il s'était à peine délivré de son lourd sac à dos sur une chaise et avait encore sur la tête son bonnet de poils. « Laisse-moi te regarder. » Et elle se reculait un peu. « Laisse-moi voir combien tu es beau. »« Mais tu es bien pâle, sais-tu ?»« C'est vrai, pâle et épuisé. » Il retira son bonnet, s'avança jusqu'au milieu de la pièce et s'assit. Quelle immense lassitude ! Même sourire lui semblait le fatiguer. « Mais retire ton manteau, mon petit !» dit la maman, qui le regardait comme un miracle vivant, presque intimidé. Comme il était devenu grand, comme il était beau, fier, malgré cette pâleur excessive. « Retire ton manteau, donne-le-moi ! Tu ne sens pas la chaleur qu'il fait ?» Il eut un brusque mouvement de défense, instinctif, et se serrant soudain dans son manteau comme s'il avait craint qu'on ne le lui arrache. « Non, non, laisse-moi, répondit-il, je préfère le garder. De toute façon, je vais ressortir bientôt. »« Tu dois sortir ? Tu reviens au bout de 2 ans et tu veux tout aussitôt sortir ?» se désolait-elle, voyant après une telle joie revenir l'éternel chagrin des mères. « Tu dois sortir tout de suite ?» Mais tu mangeras bien quelque chose. J'ai déjà mangé, maman, répondit le fils avec un doux sourire. Et son regard errait dans la pièce sur les recoins familiers. Nous nous sommes arrêtés dans une auberge à quelques kilomètres d'ici. Ah, tu n'es pas venu seul. Et qui était avec toi? Un de tes camarades de régiment? Le fils Ména, peut-être? Non, non, non. Quelqu'un rencontré en chemin. Il est dehors qui m'attend. Il est ici et il attend? Ben pourquoi ne l'as-tu pas fait entrer? Tu l'as laissé là, en plein milieu de la route? Elle alla à la fenêtre et aperçut de l'autre côté de la cour, sur le chemin, derrière la barrière de bois, un personnage qui marchait lentement, de long en large. Une silhouette sombre, tout engoncée en elle-même. Alors, naquit dans l'âme de la femme, au milieu des tourbillons de son immense joie, une peine incompréhensible, mystérieuse et aiguë. « Mieux vaut pas, dit le fils, ça l'ennuierait, c'est un type comme ça. Mais un verre de vin, on peut le lui apporter, non? Un verre de vin? Mieux vaut pas, maman, c'est un type bizarre, il est capable de se fâcher. Mais qui est-ce alors? Pourquoi l'as-tu pris avec toi? Que veut-il? Je le connais pas très bien, dit-il lentement, gravement. Je l'ai rencontré en route, il est venu avec moi, c'est tout. » Il semblait préférer parler d'autre chose. Il semblait avoir honte. Et la maman, pour ne pas le contrarier, fit diversion. Mais déjà, la lumière qui inondait son visage commençait à se ternir. « Tu te rends compte, dit-elle, la tête que fera Mariette quand elle te sera de retour. Peux-tu imaginer ses sauts de joie? C'est pour elle que tu voulais sortir. » Elle se contenta de sourire, avec toujours cette expression de qui voudrait se montrer gai, mais n'y peut parvenir, retenue par quelque poids pesant. La maman désespérait de comprendre. Pourquoi demeurait-il assis tristement, comme au jour lointain de son départ? Il était de retour désormais, avec une vie nouvelle devant lui, une infinité de jours sans problème. Tant de belles soirées à passer en famille, tant et tant, en longue file qui se perdait de l'autre côté des montagnes, dans l'immensité des années à venir. Plus jamais ces nuits d'angoisse, quand les éclairs de feu déchiraient l'horizon et qu'on pouvait se dire qu'il se trouvait là-bas. Il était revenu au bout du compte, plus beau, plus grand. Et quelle joie pour Mariette! Bientôt allait venir le printemps. Ils se marieraient à l'église un dimanche matin au milieu des sons de cloches et des fleurs. Pourquoi donc demeurait-il distrait? Pourquoi ne riait-il plus? Pourquoi ne racontait-il pas ses exploits et son manteau? Pourquoi le gardait-il malgré la chaleur qu'il faisait? Était-ce parce que son uniforme était tout boueux, déchiré? Avec sa maman, comment pouvait-il en avoir honte devant sa maman? Les tourments semblaient terminés, et voici qu'au contraire, jaillissait une nouvelle inquiétude. Son doux visage un peu penché, elle le scrutait, attentive à ne pas le contrarier, à deviner aussitôt son moindre désir. Mais pourquoi se taisait-il? Pourquoi ne la regardait-il même pas? C'était vrai que son fils ne la regardait pas. Pis encore, il semblait éviter de rencontrer son regard, comme s'il avait craint quelque chose. Pendant ce temps, son petit frère, sa petite sœur, le contemplait en silence, curieux et embarrassé. La mère n'y tint plus. « Giovanni, tu es ici finalement. Attends que je te fasse du café. » Elle se rendit à hâte dans la cuisine, et Giovanni demeura avec son frère et sa sœur, bien plus jeunes que lui. S'ils s'étaient rencontrés par hasard sur la route, ils ne se seraient même pas reconnus. Quel changement en 200! Maintenant, ils se regardaient mutuellement en silence, parce qu'ils ne trouvaient pas les mots. Mais ils se souriaient de temps en temps, comme s'ils obéissaient à un pacte d'antan toujours vivace en eux. Et voici revenue la maman. Voici le café fumant avec une belle tranche de gâteau. Il vida sa tasse d'un coup, mâcha péniblement le gâteau. « Pourquoi tu ne l'aimes plus ? Dans le temps, tu en étais tellement friand. » Giovanni, proposa-t-elle, tu ne veux pas revoir ta chambre. Le lit est tout remis à neuf, sais-tu. J'ai fait crépir les murs, installé une nouvelle lampe. Viens donc voir. Mais ton manteau, tu ne l'enlèves donc pas. Tu sens pas la chaleur qu'il fait. Le soldat, sans répondre, se leva, la suivit dans la pièce voisine. Il faisait chacun de ses gestes avec une lenteur pesante, comme s'il n'avait plus ses 20 ans. Sa mère avait couru devant pour ouvrir les volets. « Que c'est beau !» dit-il quand il fut sur le seuil, avec un enthousiasme poli à la vue des meubles. « Tout neuf, des rideaux bien propres, des murs blancs, de tout cet ensemble respirant la fraîcheur et la propreté. » Mais quand sa mère se pencha pour bien mettre en place le dessus de lit flambant neuf, lui aussi, il posa son regard sur les frêles épaules, un regard d'une immense tristesse que personne ne put remarquer. Anna et Pietro se trouvaient derrière lui, leurs petits visages rayonnants dans l'attente d'une grande scène de joie et de surprise. Il n'y eut rien de cela pourtant. « Que c'est beau, merci maman, » répéta-t-il. Et ce fut tout. Il avait le regard fuyant et gêné de ceux qui désirent terminer au plus vite une conversation pénible. Mais surtout, son regard se portait par instant et avec une inquiétude évidente par-delà la fenêtre, vers le portail peint en vert, de l'autre côté duquel un personnage faisait les 100 pas. « Tu es content, Giovanni, tu es content ?» demanda la mère, impatiente de le voir heureux. « Oh oui, c'est très beau, » répondit le fils. « Mais pourquoi s'obstinait-il à garder son manteau ?» Giovanni, supplia-t-elle, qu'as-tu, Giovanni? Tu me caches quelque chose. Pourquoi tu ne veux rien dire? Se mordit les lèvres. Quelque chose semblait lui nouer la gorge. Maman, dit-il d'une voix sourde, maman, il faut que je m'en aille maintenant. Tu dois t'en aller. Mais tu reviens tout de suite, n'est-ce pas? Tu vas chez Mariette, pas vrai? Dis-moi la vérité. Tu vas chez Mariette. Et elle cherchait à plaisanter, sans pouvoir cacher son chagrin. « C'est pas, maman !» Et il se dirigea vers la porte. Il avait repris son bonnet de poil. « C'est pas, mais il faut que je m'en aille maintenant. Il y a cet autre là-bas qui m'attend. »« Mais tu reviens tout à l'heure, tu reviens. Tu seras de retour dans 2 heures, n'est-ce pas? Je vais faire venir l'oncle Giulio et la tante. Tu penses comme ils vont être heureux aussi. Essaie d'être là avant le repas. » « Maman, » reprit le fils sur un ton qui semblait la supplier de n'en pas dire davantage, « je dois partir maintenant. Il y a cet autre qui m'attend et qui s'est montré jusqu'ici bien trop patient. » Il s'approcha de la porte. Son petit frère, sa petite sœur, encore tout joyeux, presque collé à lui. Et Pietro souleva soudain un pan du manteau pour voir comment le grand frère était vêtu par en dessous. « Pietro, Pietro, mais que fais-tu ? Arrête, Pietro !» cria la maman, de crainte de voir Giovanni se mettre en colère. « Non, non !» cria le soldat. Mais c'était trop tard. Les 2 pans de l'uniforme bleu s'étaient détachés un instant. « Oh, Giovanni, mon petit, que t'ont-ils fait ?» balbutia la mère en se prenant le visage entre les mains. « Je dois m'en aller, maman, » reprit-il une fois encore avec une fermeté désespérée. « Je l'ai déjà trop fait attendre. Au revoir, Anna. Au revoir, Pietro. Adieu, maman. » Il était déjà à la porte. Il sortit, comme enlevé par le vent. Il traversa la cour, presque en courant, ouvrit le portail. 2 cavaliers partirent au galop sous le ciel gris. Non, pas vers le village, non. À travers les champs. En direction des montagnes. Il galopait. Ce fut alors que la maman comprit enfin. Ce fut alors un vide immense que jamais, au grand jamais, les siècles ne parviendraient à combler. Elle comprit pourquoi ce manteau. La tristesse de son fils et surtout qui était le mystérieux personnage là-bas, derrière le portail, dans l'attente. Patient et miséricordieux au point d'accompagner Giovanni jusqu'à sa vieille demeure pour le laisser saluer une fois encore sa mère, au point d'attendre de longues minutes de l'autre côté du portail, lui, le maître du monde, dans la poussière du chemin. Allégorie, on n'en dira pas plus. Je suis désolée d'avoir commencé par quelque chose d'aussi poignant, mais c'est tellement émouvant qu'il m'entelle l'eau. Je trouve que c'est un des chefs-d'œuvre de Buzzati. On va continuer avec quelque chose de plus léger. Hein. Alors, quand même, plus léger parce que, voilà, c'est quand même la Befana. Hein. Je vais vous. Alors, ça s'appelle. La farfaletta. Alors déjà la farfaletta, on sent que c'est plus léger. Hein. C'est le petit papillon. Le petit papillon, il y en a peut-être qui la connaissent. Non? Alors je vous en lis un petit morceau en italien. Hein, pour pas trop ennuyer les gens qui ne comprennent pas l'italien. Après je redirai tout en français. Celle-là je l'aime beaucoup aussi pour d'autres raisons. La farfaletta. L'onorevole Aldo Smith, sottosegretario all'ordine pubblico, stavo scrivendo con fatica il discorso di risposta all'interpellanza dell'onorevole Fossambra, suo collega di partito, il quale l'accusava di avere avuto la mano greve nei riguardi dei cavalieri errati, quando dalla finestra venne un lievissimo fruscio. Sempre coi nervi tesi, nell'evenienza di un attentato, le lettere anonime di minaccia contro di lui formavano ormai un pesante dossier. Egli levò fulmineo gli occhi e con sollievo vide una farfalletta grigia che, entrata attraverso i vetri socchiusi, non riusciva più a ritrovare la libertà, impigliatasi com'era nella tendina di mussola. Colui che nei moti di piazza veniva comunemente definito il grande boia, dopo aver osservato a lungo gli inutili sforzi della bestiola per trovare un varco, lasciò la penna, si alzò, portò una sedia sotto la finestra, montò sulla sedia e, per mezzo di un lungo tiranine, raggiunse la farfalletta cercando di spingerla verso l'esterno. Ma l'animaletto, anziché agevolare i suoi sforzi, si dibatteva spaventato, incuneandosi sempre più tra le pieghe della tenda. Tanto che lo Smith, disilluso, rinunciò alla sua opera di beni. Allora, on va recommencer en français. Donc, le petit papillon. Le député Aldo Smith, sous-secrétaire à l'ordre public, était en train d'écrire péniblement son discours en réponse à l'interpellation du député Fossambra qui l'accusait d'avoir eu la main lourde à l'égard des chevaliers errants lorsque, de la fenêtre, survint un très léger bruissement. Les nerfs toujours tendus dans l'éventualité d'un attentat, les lettres anonymes de menaces contre lui formaient désormais un lourd dossier. Avec la rapidité de l'éclair, il leva les yeux et avec soulagement, il vit un petit papillon gris qui, entré par les fenêtres entrebâillées, n'arrivait plus à retrouver la liberté, empêtré comme il l'était dans le rideau de mousseline. Celui qu'on appelait dans les mouvements de rue le grand bourreau, après avoir longtemps observé les efforts inutiles de la bestiole pour trouver un passage, laissa tomber sa plume, se leva, apporta une chaise sous la fenêtre, monta sur la chaise et, à l'aide d'un long tire-ligne, atteignit le petit papillon en essayant de le pousser vers l'extérieur. Mais le petit animal, au lieu de faciliter ses efforts, se débatta effrayé en s'enfonçant de plus en plus dans les plis du rideau. Tant et si bien que Smith, déçu, renonça à son œuvre de charité. Petit papillon, dit-il. Il y a quelqu'un qui veut te sauver la vie. Mais toi, tu ne comprends pas. Si seulement tu avais une bribe de mon cerveau, tu serais déjà sauvé depuis un bon moment. Et il se remit à son travail. Le soir tomba, qui n'avait pas encore fini. À 8h30, l'huissier, son horaire terminé, vint prendre congé. Du petit papillon, on n'avait plus de nouvelles. Il devait s'être fourré dans les petites mousselines où probablement il finirait ses heures ou ses jours. Dans le grand palais ministériel, le député Smith resta seul. La rédaction de son discours avançait avec peine. C'était pas facile d'affronter au Parlement le sujet des chevaliers errants. On ne savait même pas avec précision qu'ils étaient, hormis le fait qu'ils s'étaient résolument mis hors la loi. Des exaltés, des brigands de grand chemin, des révolutionnaires, des maniaques sanguinaires, des voyous drogués, des adeptes d'une secte religieuse ou bien des intellectuels dépravés. Ce qui est sûr, c'est que lui, Smith, ne souhaitait pas les rencontrer. Minuit sonna que l'épineux discours n'était même pas arrivé à la moitié. Le député tint bon, cependant. Il termina sa péroraison alors que les premières lueurs de l'aube entraient par la fenêtre. Il tombait de sommeil. Tandis qu'il se levait de son bureau, son œil fut attiré par une petite tache claire sur la moquette gris-souris. Il s'approche, c'était le petit papillon. Il ne donnait plus signe de vie. Amen. En bas dans la cour, au moment où Smith mit sa voiture en marche, la petite lumière rouge s'alluma. Il ne disposait plus que de la réserve d'essence. Est-ce qu'il arriverait jusque chez lui ? Mais quelle idée avait-on eu aussi de construire un ministère au fin fond de la banlieue, presque à la campagne ? Il arriva ce qu'il craignait. Il n'avait pas encore fait 1 kilomètre. Il n'était pas encore entré dans la ville que le moteur, après quelques éternuements, s'arrêta. Il faisait encore nuit, il passait pas un camion, il passait pas âme qui vive. Quant à trouver ouvert à cette heure-là un distributeur d'essence, il fallait même pas y penser. Pestant dans lui-même, il descendit de l'auto, continua sa route à pied. Il était mort de fatigue et d'une humeur noire. Il marchait en chancelant, les yeux fixés sur l'asphalte. Soudain, deux hommes, comme sortis de sous terre. Il les trouva devant lui, à une douzaine de mètres. Tout de suite, il les reconnut. En raison de cette coiffure spéciale, en forme de crête, comme dans certaines tribus d'Afrique. L'un était en bras de chemise. L'autre portait un gros blouson de cuir. Le premier blond empoignait un objet qu'il reconnut avec horreur. Un de ces crocs atroces qui servent aux bouchers pour soulever les quartiers de bœuf. C'était deux chevaliers errants. Il s'arrêta, fit le point en un éclair. À gauche, un canal. À droite, un terrain vague qui s'étendait jusqu'à un mur d'usine. Derrière, à 500 mètres environ, sa voiture. À quoi pouvait-elle servir ? Les deux garçons étaient arrêtés eux aussi. Tranquille, il plaisantait. Mais c'est magnifique! T'as vu? J'ai vu. Tu sais qui c'est? On dirait. Mais j'ai de la peine à y croire que c'est le grand bourreau en personne. Ce serait trop beau. Ce serait diaboliquement beau. Et façon de parler, si c'était lui le député, quel joli cadeau tu lui ferais? Quel hommage pourrions-nous inventer? Oh, moi, si c'était vraiment le député bourreau, je lui réserverais un traitement spécial, proprement un service de luxe. Non, non, ne bouge pas, mon petit monsieur. Inutile de courir. Sois tranquille, tu ne nous échapperas plus. » Et il leva l'horrible crochet en guise d'avertissement. Smith se sentit perdu. Il était clair que les deux loupards, dans une situation aussi favorable, allaient au minimum l'égorger. De qui, d'où pouvait-il espérer un secours? Les sentiments se mirent à tourbillonner dans sa tête, avec une violence effrayante. Sur ces entrefaites, l'aube étant venue, les rares réverbères s'éteignirent. Contre le ciel laiteux de la banlieue, tandis qu'il était envahi par une désolation mortelle, il vit se balancer une chauve-souris. Les deux types terribles s'avancèrent vers lui sans se presser. La chauve-souris s'éloignait. « Ah, si je pouvais prendre sa place !» pensa-t-il avec toutes les forces de son esprit. Et il se retrouva planant dans les airs, voltigeant au-dessus d'une route où deux jeunes gens rouaient de coups avec lenteur et sauvagerie un homme d'une quarantaine d'années, de taille élancée, qui poussait des cris atroces. Il n'était plus ni homme, ni sous-secrétaire, simplement chauve-souris, mais sain et sauf. La lumière augmentant, il se sentit lourd de sommeil. Il y avait une ferme là-bas. Il l'atteignit. Il entra sous le toit d'une grange à foin, la tête en bas, et se suspendit à une poutre. Tout autour de lui, ce fut un cœur de protestation. « Qui est-ce? Qu'est-ce que tu veux ?» maugréaient d'autres chauves-souris. « Ici, tout est complet. Ici, nous sommes même trop nombreuses. Décampe, décampe !»« Je suis le député Smith, » dit-il rapidement, « sous-secrétaire dans le gouvernement Baregi. » « Quoi, quoi? Sous-secrétaire? Qu'est-ce que ça veut dire ?» C'était comme un dialogue de sourds. Il s'en alla, en se traînant péniblement dans la lumière qui lui blessait la membrane des yeux. Il aperçut une grande ombre longiligne, un clocher. Il s'installa dans la cage du clocher. Il n'y avait personne. Naturellement, avec le fracas des cloches et ce va-et-vient des vents coulis. Ah, son confortable bureau au ministère avec la moquette gris-souris. Il dormit jusqu'au soir. Avec l'obscurité, il se sentit réconforté. S'élança dans l'air la chasse aux moustiques et aux moucherons. Yop, comme toutes les chauves-souris. Il a tout de même réussi à retrouver le bâtiment du ministère. Il tourne autour, mais tout est sombre. Même la troisième fenêtre, au premier étage, son bureau. Il aurait bien envie d'entrer. Mais les fenêtres sont entrouvertes et laissent à peine un étroit passage. Ce serait une sacrée imprudence. Si au matin on le surprenait là, à l'intérieur, tout député qu'il est, s'en serait fait de lui. C'est alors qu'il se souvient du petit papillon. Il y en a au matin des petits papillons dans les terrains vagues autour du ministère. Il se lève de bonne heure. Le tout est de résister à la lumière et au sommeil. Smith résiste. C'est vraiment la dernière chauve-souris restée aux alentours. Les moineaux la regardent déconcertés. Enfin, un petit papillon couleur Isabelle, la plus adaptée pour se camoufler sur le rideau. Il flâne de façon désordonnée sur les fleurs du pré. Le député chauve-souris descend. « Ah, si je pouvais prendre sa place !» implore-t-il. Et il s'envole tout gracieux avec ses jolies ailes de soie. Maintenant oui, petit comme il est, il peut entrer impunément dans son bureau. Troisième fenêtre à droite, premier étage. Avant d'entrer, un petit coup d'œil. Curieux, au bureau il y a un homme. Comme il est matinal, assis, il écrit. Diable, il n'a pas perdu de temps, le cher collègue Fossambra, pour prendre sa place. Il entre avec circonspection, s'accroche en silence en haut du rideau. De là, il peut dominer la scène. Le député Fossambra ne s'est aperçu de rien. Comment aurait-il pu s'en apercevoir? Il continue imperturbable à écrire. Son premier discours de sous-secrétaire, vraisemblablement. Mais maintenant, son collègue Smith va lui jouer un bon tour. Lui, Smith, possède, et il l'a vérifié par deux fois, ce merveilleux pouvoir. Il dira encore, « Ah, si je pouvais prendre sa place !» Et Fossambra deviendra petit papillon. Et lui, Smith, deviendra Fossambra, c'est-à-dire sous-secrétaire, comme auparavant. Après quoi, pour éviter tout ennui, il n'y aura plus qu'à tuer la bestiole. Mais pourquoi tout de suite? Il vaut mieux que ce soit Fossambra qui travaille jusqu'au soir. D'autant plus que lui, Smith, meurt de sommeil, de tout son sommeil en retard de chauve-souris. C'est pourquoi il se glisse dans un pli du rideau, les ailes bien rétractées, en forme d'ombrelle, et placidement, il s'endort. À peine eut-il le temps de fermer les yeux que le député Fossambra se lève furtivement, saisit dans sa main gauche la règle à dessin, sur la pointe des pieds, apporte une chaise à la fenêtre, il monte sur la chaise, il vise et il assène avec son tirligne un coup énergique au petit papillon qui tombe mort sur la moquette gris-souris sans même pousser un soupir. Plein de fantaisie là, ça fait plaisir parce qu'ils ne sont pas tous comme ça. Les nouvelles de Buzzati sont quand même quelquefois un peu. Alors on va terminer par le cas, parce que le cas de Buzzati, quelquefois on ne sait plus trop bien ce que c'est et qui c'est. D'abord, le cas, il est aussi appelé Il Colombre. Voilà, et c'est le cas a donné son nom au recueil de nouvelles. Voilà, donc le cas. Était écrite en 66. Alors il s'agit d'un petit garçon qui s'appelle Stefano Roy. Quand Stefano Roy eut 12 ans, il demanda comme cadeau à son père, qui était capitaine au long cours et maître d'un beau voilier, de l'emmener à bord avec lui. Quand je serai grand, dit-il, je veux aller sur la mer comme toi. Je commanderai des navires encore plus beaux et encore plus gros que les tiens. Dieu te bénisse, mon petit, répondit le père. Et comme son bâtiment devait justement appareiller ce jour-là, il emmena le garçon à bord avec lui. C'était une journée splendide, ensoleillée. La mer était calme. Stefano, qui n'était jamais monté sur le bateau, courait tout heureux sur le pont, admirant les manœuvres compliquées des voiles. Et il posait de multiples questions au marin, qui, en souriant, lui donnait toutes les explications souhaitables. Arrivé à la poupe, le garçon s'arrêta, intrigué, pour observer quelque chose qui émergeait par intermittence à 200-300 mètres environ dans le sillage du navire. Bien que le bâtiment courût déjà à belle allure, porté par une brise favorable, cette chose gardait toujours le même écart. Et bien qu'il n'en comprît pas la nature, il y avait en elle un je ne sais quoi d'indéfinissable qui fascinait intensément l'enfant. Le père, qui ne voyait plus Stefano et l'avait appelé sans succès, descendit de sa passerelle de commandement pour se mettre à sa recherche. « Stefano, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais planté là ? » lui demanda-t-il en l'apercevant finalement à la poupe. Debout, en train de fixer les vagues. « Papa, viens voir !» Le père vint, regarda lui aussi dans la direction que lui indiquait le garçon, mais il ne vit rien du tout. « Il y a une chose noire qui se montre de temps en temps dans le sillage, » dit l'enfant, « et qui nous suit. »« J'ai beau avoir 40 ans, » dit le père, « je crois que j'ai encore de bons yeux, mais je ne remarque absolument rien. » Comme son fils insistait. Il alla prendre sa longue vue et scruta la surface de la mer en direction du sillage. Stefano le vit pâlir. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Pourquoi tu fais cette figure-là ? Dis, papa. »« Ah, oh, si seulement je t'avais pas écouté !» s'écria le capitaine. « Je vais me faire bien du souci pour toi maintenant. Ce que tu vois émerger de l'eau et que nous suit n'est pas une chose, mais bel et bien un cas. C'est le monstre que craignent tous les navigateurs de toutes les mers du monde. C'est un squale effrayant et mystérieux, plus astucieux que l'homme. Pour des raisons que personne ne connaîtra peut-être jamais, il choisit sa victime. Et une fois qu'il l'a choisie, il la suit pendant des années et des années, toute la vie s'il le faut, jusqu'au moment où il réussit à la dévorer. Et le plus étrange, c'est que personne n'a jamais pu l'apercevoir, si ce n'est la future victime ou quelqu'un de sa famille.
C'est une blague que tu me racontes, papa.
Non, non. Et je n'avais encore jamais vu ce monstre. Mais d'après les descriptions que j'ai si souvent entendues, je l'ai immédiatement identifié. Ce mufle de bison, cette gueule qui ne fait que s'ouvrir, se fermer spasmodiquement, ses dents terribles. Stefano, il n'y a plus de doute possible, hélas. Le cas a jeté son dévolu sur toi. Et tant que tu seras en mer, il ne te laissera pas un instant de répit. Écoute-moi bien, mon petit. Nous allons immédiatement retourner au port. Tu débarqueras et tu ne t'aventureras plus jamais au-delà du rivage, pour quelque raison que ce soit. Tu dois me le promettre. Le métier de marin n'était pas fait pour toi, mon fils. Il faut te résigner. Bah, terre aussi, tu pourras faire fortune. Ceci dit, il commanda immédiatement au navire de faire demi-tour. Rentra au port et, sous le prétexte d'une maladie subite, fit débarquer son fils. Puis il repartit sans lui. Profondément troublé, l'enfant resta sur la grève jusqu'à ce que la corne du plus haut des mâts disparût à l'horizon. À distance, il apercevait un petit point noir qui affleurait de temps en temps. C'était son cas qui croisait lentement de long en large et qui l'attendait avec obstination. À partir de ce moment, tous les moyens furent bons pour combattre l'attirance que le garçon éprouvait pour la mer. Le père l'envoya étudier dans une ville de l'intérieur des terres, à des centaines de kilomètres de là. Et pendant quelque temps, Stefano, distrait par ce nouveau milieu, ne pensa plus au monstre marin. Toutefois, aux grandes vacances, il revint à la maison et il ne put s'empêcher, dès qu'il eut une minute de libre, de courir à l'extrémité de la jetée pour une sorte de vérification qu'il jugeait superflue et dans le fond ridicule. Après si longtemps, le cas, en admettant que l'histoire racontée par son père fut vraie, avait certainement renoncé à l'attaque. Mais Stefano resta médusé, le cœur battant, la chamade. À 200-300 mètres du môle, en haute mer, le sinistre animal croisait lentement, sortant la tête de l'eau de temps à autre et regardant vers le rivage comme pour voir si Stefano venait enfin. C'est alors que la pensée de cette créature hostile qui l'attendait jour et nuit devint pour Stefano une obsession secrète. Dans la cité lointaine, il lui arrivait maintenant de se réveiller en pleine nuit avec inquiétude. Il était en lieu sûr, oui. Des centaines et des centaines de kilomètres le séparaient du cas. Et pourtant, il savait qu'au-delà des montagnes, au-delà des bois, au-delà des plaines, le squale continuait à l'attendre. Et même s'il était allé vivre dans le continent le plus lointain, le cas l'aurait guetté du lagon le plus proche, avec cette obstination inexorable des instruments du destin. Stefano, qui était un garçon sérieux et ambitieux, continua ses études avec profit et, arrivé à l'âge d'homme, il trouva un emploi bien rémunéré et important dans une entreprise de la ville. Entre-temps, son père était venu à mourir de maladie et le magnifique voilier fut vendu par la veuve. Le fils se trouva alors à la tête d'une coquette fortune. Le travail, les amitiés, les amusements, les premiers amours, la vie de Stefano était désormais toute tracée. Néanmoins, le souvenir du cas le tourmentait, comme un mirage à la fois funeste et fascinant. Et au fur et à mesure que les jours passaient, au lieu de s'estomper, il semblait s'intensifier. Les satisfactions que l'on tire d'une existence laborieuse, aisée, et tranquilles sont grandes, certes, mais l'attraction de l'abîme est encore supérieure. Stefano avait à peine 22 ans lorsque, ayant dit adieu à ses amis de la ville et quitté son emploi, il revint dans sa ville natale et annonça à sa mère son intention de faire le même métier que son père. La brave femme, à qui Stefano n'avait jamais soufflé mot du mystérieux squale, accueillit sa décision avec joie. Le fait que son fils eût abandonné la mer pour la ville lui avait toujours semblé dans le fond de son cœur une espèce de désertion des traditions familiales. Et Stefano commençait à naviguer, témoignant de qualités maritimes, de résistance à la fatigue, d'intrépidité. Il bourlinguait sans trêve. Et dans le sillage de son bateau, jour et nuit, par beau temps ou gros grain, il traînait derrière lui le cas. C'était là sa malédiction et sa condamnation. Il le savait. Mais justement pour cette raison peut-être, il ne trouvait pas la force de s'en détacher. Et personne à bord n'apercevait le monstre, si ce n'est lui. « Est-ce que vous ne voyez rien de ce côté-là » demandait-il parfois à ses compagnons en indiquant le sillage. « Non, je ne vois absolument rien. Pourquoi ?»« Je ne sais pas, il me semblait. Tu n'aurais pas vu un cas par hasard ?» ricanaient les autres en touchant du bois. « Pourquoi riez-vous ? Et pourquoi touchez-vous du bois ?»« Parce que le cas est une bête qui ne pardonne pas. » « Et si jamais elle se mettait à suivre le navire, cela voudrait dire que l'un de nous est perdu. » Mais Stefano ne réfléchissait pas. La menace continuelle qui le talonnait paraissait même décupler sa volonté, sa passion pour la mer, son ardeur dans les heures de péril et de combat. Avec l'héritage que lui avait laissé son père, lorsqu'il sentit qu'il possédait bien son métier, il acheta par moitié, avec un associé, un petit caboteur. Puis il en fut bientôt le seul patron et par la suite, grâce à une série d'expéditions chanceuses, il put acheter un vrai cargo, visant toujours plus ambitieusement de l'avant. Mais les succès et les millions n'arrivaient pas à chasser de son esprit cette obsession continuelle et il ne songea pas une seconde à vendre le bateau et à cesser de naviguer pour se lancer dans d'autres entreprises. Jusqu'au jour où, soudain, Stefano prit conscience qu'il était devenu vieux, très vieux. Et personne de son entourage ne pouvait expliquer pourquoi, riche comme il l'était, il n'abandonnait pas enfin cette damnée existence de marin. Vieux et amèrement malheureux, parce qu'il avait usé son existence entière dans cette fuite insensée à travers les mers, pour fuir son ennemi. Mais la tentation de l'abîme avait été plus forte pour lui que les joies d'une vie aisée et tranquille. Et un soir, tandis que son magnifique navire était ancré au large du port où il était né, il sentit sa fin prochaine. Alors, il appela le capitaine, en qui il avait une totale confiance, et lui enjoignit de ne pas s'opposer à ce qu'il allait tenter. L'autre, sur l'honneur, promit. Stefano révéla alors au capitaine qu'il écoutait, bouche bée, l'histoire du cas, qui avait continué de le suivre pendant 50 années, inutilement. « Il m'a escorté d'un bout à l'autre du monde, dit-il, avec une fidélité que même le plus noble ami n'aurait pas témoigné. Maintenant, je suis sur le point de mourir. » Lui aussi doit être terriblement vieux et fatigué. Je ne peux pas tromper son attente. » Ayant dit, il prit congé, fit descendre une chaloupe à la mer et s'y installa, après s'être fait remettre un harpon. « Maintenant, je vais aller à sa rencontre, » annonça-t-il. « Il est juste que je ne le déçoive pas, mais je lutterai de toutes mes dernières forces. » À coup de rame, il s'éloigna. Les officiers, les matelots le virent disparaître là-bas, sur la mer placide, dans les ombres de la nuit. Au ciel, il y avait un croissant de lune. Il n'eut pas à ramer longtemps. Tout à coup, le mufle hideux du cât émergea contre la barque. Je me suis décidée à venir à toi, dit Stefano, et maintenant à nous deux.
Alors, rassemblant ses dernières forces, il brandit le harpon pour frapper.
Mugit d'une voix suppliante Luca. Quel long chemin j'ai dû parcourir pour te trouver. Moi aussi, je suis recrue de fatigue.
Est-ce que tu as pu me faire nager? Et toi qui fuyais, dire que tu n'as jamais rien compris.
Compris quoi? Fit Stefano piqué au vif. Compris que je ne te pourchassais pas autour de la terre pour te dévorer, comme tu le pensais. Le roi des mers m'avait seulement chargé de te remettre ceci. Et le squale tira la langue, présentant au vieux marin une petite sphère phosphorescente. Stefano la prit entre ses doigts, l'examina. C'était une perle d'une taille phénoménale. Et il reconnut alors la fameuse perle de la mer, qui donne à celui qui la possède fortune, puissance, amour et paix de l'âme. Mais il était trop tard désormais. Hélas, dit-il en hochant la tête tristement. Quelle pitié! J'ai seulement réussi à gâcher mon existence et la tienne. Adieu, mon pauvre homme, répondit Luca, et il plongea pour toujours dans les eaux noires. 2 mois plus tard, poussé par le ressac, une petite chaloupe s'échoua sur un écueil abrupt. Elle fut aperçue par quelques pêcheurs qui, intrigués, s'en approchèrent. Dans la barque, un squelette blanchi était assis. Entre ses phalanges minces, il serrait un petit galet arrondi.
Le cat est un poisson d'une très grande taille, affreux à voir et extrêmement rare. Selon les mers et les riverains, il est indifféremment appelé colombert, caboucra, calonga, calou, balou, chalungra. Les naturalistes, fait étrange, l'ignorent. Quelques-uns même soutiennent qu'il n'existe pas.
Vraiment un don de conteuse.
Oh, bravo.
C'est fait, c'est fait.